Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Le Monde qui nous entoure. Je suis Brian Boklinka, votre présentateur, et je vous emmène avec moi dans l'émission pour découvrir l'espace. Le monde qui nous entoure.
Les étoiles.
Soleil.
Les planètes.
Les galaxies.
Nous sommes en direct sur le 93.9 FM, et nous allons parler de l'espace et son dehors. L'espace, c'est le grand mystère, l'infini qui nous entoure, là où finit notre monde et commencent les étoiles. Depuis que l'homme a posé le pied sur l'une des planètes, l'exploration de ce dehors est devenue un rêve collectif. C'est le symbole de notre quête et de notre travail. Partir dans l'espace, c'est plus qu'une aventure technologique. C'est un voyage inconnu, ça nous pousse à réfléchir à notre place dans l'univers. Quand nous regardons les étoiles, c'est un peu comme si nous cherchions à comprendre qui sommes-nous. Ça nous met à rêver. L'espace, ce dehors infini, nous offre des chances incroyables, mais aussi des responsabilités. Nous devons explorer l'infini, mais nous ne devons pas oublier notre propre planète. Au programme aujourd'hui, pour parler, nous écoutons Clément, notre chroniqueur. Bonjour Clément.
Bonjour.
Et nous finirons cette émission avec un interview entre Elon Musk et un journaliste dont notre cher Wael.
Bonjour.
Hello.
Nous allons accueillir tout de suite Clément, avec sa chronique sur l'espace aujourd'hui. Bonjour Clément.
Bonjour.
Alors comment va l'espace ?
Bah écoutez, l'espace aujourd'hui est plutôt énervé. On va parler d'éruption solaire. On l'a vu le 10 mai dernier, le soleil fait des caprices. Pour ceux qui ne seraient pas sortis cette nuit-là, on a vu un phénomène commun au pôle, mais rare à nos latitudes. Des aurores boréales. Mais au fait, comment ça marche ? Les aurores boréales, c'est causé par des éruptions solaires. Ce sont de violentes explosions de matière et de rayons X sur la surface du Soleil. Toute cette matière traverse l'espace à une vitesse gigantesque, puis arrive aux alentours de notre planète. Le truc, c'est que la Terre, en plus d'avoir une atmosphère, elle a un bouclier magnétique. Donc, normalement, les particules arrivent et rebondissent dessus. Mais des fois, ces particules arrivent tellement vite qu'elles percent le bouclier et arrivent dans l'atmosphère. C'est là qu'elles produisent des super couleurs en touchant l'air. Ces couleurs vertes, on va en voir de plus en plus pendant l'année 2025, car le Soleil entre dans une grosse période d'activité. Le Soleil est calé sur un cycle de 11 ans. Au début, pendant 5 ans, il n'est pas très actif. Mais ensuite, pendant 6 ans, il augmente son taux d'activité, et là, on va arriver à un pic d'activité. C'était Clément Boyer. Gardez les yeux levés vers le ciel.
On revient dans un instant, juste après une petite pause musicale.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Three, two, check ignition, one. And may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. I'm stepping through the door.
On vient d'écouter Space Oddity de David Bowie. L'émission Le Monde qui nous entoure continue sur Radio Campus Paris. Et tout de suite, c'est l'heure de l'interview. Bienvenue à notre journaliste Wael, vous recevez Elon Musk. Je vous laisse la parole.
D'abord, bonjour Elon Musk, vous êtes à l'origine de Tesla, OpenAI, SpaceX, vous avez même acheté Twitter pour le renommer X. Et maintenant, pourquoi vous considérez l'envoi de personnes sur Mars comme une priorité pour l'avenir ?
Alors, je considère l'envoi de personnes sur Mars comme une priorité pour l'avenir de l'humanité, car cela permettra de garantir notre survie à long terme. Devenir une civilisation multiplanétaire est essentiel pour nous protéger des menaces existentielles, qu'il s'agisse de guerres, des catastrophes naturelles ou de crises climatiques. En colonisant Mars, nous créons une assurance pour l'humanité, si quelque chose devait mal tourner sur Terre.
Mais du coup, comment prévoyez-vous de surmonter les défis techniques et financiers pour coloniser Mars ?
Alors, je compte sur les innovations de SpaceX, notamment la fusée réutilisable Starship, pour surmonter les défis technologiques et financiers de la colonisation de Mars. En réduisant les coûts de lancement, je vise à rendre l'exploration spatiale plus abordable. Je prévois aussi de financer ce projet grâce à des contrats avec des agences comme la NASA et des initiatives commerciales comme Starlink. Je suis convaincu que la technologie et l'innovation permettront de relever ces défis.
C'est un grand défi que vous vous lancez et que répondez-vous aux critiques ?
Eh bien, s'ils pensent que c'est impossible, regardez ce qu'on a déjà fait. On verra bien qui a raison.
Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions, Elon Musk.
C'est la fin de notre émission, Le Monde qui nous entoure. Merci à Clément, Wael, Elon Musk, Curtis et Youssef pour la réalisation de cette émission. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Campus Paris.
Bonne soirée.
Au revoir.
Au revoir.
Le monde qui nous entoure.
Les étoiles.
Soleil.
Les planètes.
Les galaxies.
Bonjour, il est midi 25 et vous êtes sur Ça se passe chez vous, présenté par Iris Ducornet.
Ça
se
passe
aujourd'hui. Trois fois canon, Digiston. Belle place à la Fashion Street. Pas d'honneur sur la photo de presse. Je vais te poser la question qui fâche. T'as porté les habits à qui pour fèche. Parlons en français.
Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Inès Claire, journaliste, qui nous proposera une interview avec une invitée très spéciale. À la régie, nous sommes avec Arthur Colombel. On commence par la chronique sur les violences domestiques. Je vais vous parler des violences domestiques. Ce sujet nous tient à cœur car il est encore beaucoup trop présent. Sans plus tarder, je rentre dans le vif du sujet en commençant par les hommes. D'après le magazine Le Monde, 398 000 hommes sont victimes de violences conjugales, ce qui vaut 5% de violences physiques et environ 1% de violences sexuelles. En revanche, 149 000 femmes ont été victimes de violences conjugales, ce qui vaut 15% de femmes qui ont subi des violences physiques et environ 5% des femmes qui ont subi des violences sexuelles. Ces chiffres, pour les hommes et les femmes, datent de 2013 et 2014. En 2020, d'après le site officiel du gouvernement, 118 femmes ont été victimes de féminicides face à 27 hommes morts. Pour finir, quelques chiffres pour les enfants. D'après le site du gouvernement intérieur, en 2022, 40 334 mineurs affirment avoir subi des violences sur mineurs ou des maltraitances infantiles, ce qui représente 24%. Pour finir, si vous êtes victime ou témoin, vous pouvez appeler le 3019, qui est le numéro à joindre pour les violences conjugales, ou le 119 pour les maltraitances infantiles.
La porte à côté, là où il y a toujours beaucoup de bruit, mettre près de public, on y fait des concerts. Où l'on chante des chansons, personne ne m'entend. Des chansons pour célébrer la mauvaise.
On passe tout de suite avec l'interview de Madame Claire.
Et donc aujourd'hui, nous allons explorer une question plutôt intéressante. Comment les générations perçoivent-elles le mot « maison » au fil des âges ? Cette question soulève des perspectives intéressantes car lors de nos interviews, chaque personne offrait une vision différente de ce que représente la maison, influencée généralement par leur âge. Voici quelques extraits de ces micro-trottoirs.
Du coup, bonjour, que représente le mot « maison » pour vous ?
Bah, c'est bien parce que c'est le logement, c'est là où t'habites et voilà.
Ok.
C'est un foyer.
Ok.
C'est tout. Super.
Merci. Du coup, que représente le mot maison pour vous ?
Alors pour moi, la maison, c'est vraiment le cocon, l'endroit où on se sent bien, l'endroit où on a vraiment tout ce dont on a besoin et où on a envie de rentrer le soir et de rentrer même quand on est en vacances.
Merci.
Merci.
Au revoir. Du coup, bonjour.
Bonjour.
Que représente le mot maison pour vous ?
Foyer, logement, vie.
Ok.
Okay. Intimité.
Ok, merci.
Super.
Et pour approfondir ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir une experte en psychologie, Madame Boucula. Bonjour.
Bonjour Madame Claire.
Et pour commencer, pourriez-vous nous expliquer ce que signifie réellement le mot maison ?
Eh bien, à première vue, le mot maison désigne simplement l'habitation, le logement, mais en y regardant de plus près, il renvoie également au confort, à la sécurité et au cocon familial. Cette perception évolue toutefois selon les âges.
Et pensez-vous que la perception de la maison évolue donc avec l'âge ?
Effectivement. Chez les jeunes, la maison devient souvent synonyme de chambre, un espace d'isolement et de refuge personnel. Les adultes, eux, associent la maison à la vie de famille, un lieu de responsabilité. Quant aux personnes âgées, la maison prend un aspect plus nostalgique, marqué par les souvenirs et les repères d'une vie passée. Tout ça pour dire que la maison n'est pas perçue de la même manière selon les générations. Elle reflète les besoins et les préoccupations propres à chaque étape de la vie.
Et lorsque vous parlez de jeunes adultes, adultes et personnes âgées, comment définissez-vous ces différentes tranches d'âge ?
Eh bien, lorsque je parle des jeunes, j'entends les adolescents âgés de 13 à 18 ans. En ce qui concerne les adultes, cela inclut les jeunes adultes à partir de 18 ans jusqu'aux adultes de 60 ans. Et pour les personnes âgées, je fais référence à la tranche d'âge allant de 60 jusqu'à la fin de vie.
Ok, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
De rien, au revoir.
Très bien, merci Madame Bocula et Madame Claire pour cette superbe interview. C'est la fin de Ça se passe chez vous, merci de nous avoir écoutés. On se quitte sans plus tarder avec la musique du jour, C'est une maison bleue de Maxime Le Forestier.
C'est une maison bleue, adossée à la colline. On y vient à pied, on ne frappe pas. Ceux qui vivent là ont jeté la clé. On se retrouve ensemble après des années de route et on vient s'asseoir autour du repas. Tout le monde est là à 5 heures du soir. Quand San Francisco s'embrume, quand San Francisco s'allume, San Francisco, où êtes-vous? Lise des Lucs, si.
Tout sur la ville.
Bonjour à toutes et à tous, merci à tous nos auditeurs, vous êtes sur Tous sur la ville. Nous sommes à Radio Campus et aujourd'hui nous allons parler de la ville et ses travers, l'émission réalisée par des élèves de seconde. Pour cela, nous écouterons notre journaliste de sport, Souleymane Mohamed.
Bonjour.
Et son invité Ryan Boufal.
Bonjour.
Notre chroniqueur Charles Lhomme.
Bonjour.
Et une sociologue spécialisée dans les comportements humains, Assia Jaber.
Bonjour.
Et à la réalisation, Lisa Richard.
Bonjour.
Et tout de suite, je vais laisser la parole à notre chroniqueur.
Alors bien le bonjour, aujourd'hui la question qu'on se pose c'est pourquoi dans les campagnes on vote de droite voire extrême droite, tandis que dans les grandes agglomérations on vote de gauche voire extrême gauche. D'après une étude, 93% des communes ont voté pour le Rassemblement National aux dernières élections européennes. La plupart de ces communes se trouvaient dans des zones non urbaines. D'après Kevin Brooks, chercheur spécialisé dans les libertés économiques et les libertés politiques, les zones rurales votent pour le Rassemblement National parce qu'il y a un certain ressentiment, une hostilité de la part de ces populations vis-à-vis des élites urbaines. On peut parler aussi de crise agricole et économique. Les agriculteurs et travailleurs ruraux font face à des difficultés économiques importantes, telles que la baisse des prix agricoles, la concurrence internationale et la disparition des petites exploitations. Le RN capitalise sur ce désenchantement en promettant des mesures protectionnistes et une meilleure défense des intérêts des agriculteurs. D'après eux, le Rassemblement National est le seul parti qui prend davantage en considération ces tranches de population. On peut noter aussi une certaine peur de l'immigration et la peur de la perte de la culture française, entre guillemets. De même, ces populations peuvent voter des partis comme Reconquête ou le LR. En opposition, ces grandes aires urbaines qui votent plus à gauche ou centrisme, par exemple Paris et les Hauts-de-Seine avaient voté en majorité Renaissance, le parti du président de la République, tandis que le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis avaient voté le Parti communiste français et la France insoumise. Cela dépend surtout de la question de la société et de la question économique ou morale. La gauche suit une stratégie depuis les années 90 qui vise à faire de l'électorat classe moyenne urbanisée sa principale clientèle électorale. Du coup, sur la question de société en banlieue, on trouve souvent beaucoup de familles issues de l'immigration. Ils sont donc contre les valeurs racistes et anti-immigration des partis d'extrême droite, mais aussi que les jeunes sont de plus en plus progressistes dans les grandes villes et que du coup, votent à gauche plus libérale et qui prône l'inclusion sociale et l'inégalité des chances. L'égalité des chances, excusez-moi. Sur le plan économique, les zones rurales périurbaines sont souvent plus dépendantes des secteurs industriels ou agricoles. Cela peut expliquer une plus grande adhésion des citadins aux idées de redistribution des richesses ou de régulation de l'économie défendues par la gauche. Et pour finir, la préoccupation environnementale, les enjeux écologiques sont de plus en plus importants dans les métropoles où les embouteillages et les problèmes de logement sont des préoccupations majeures. Les partis de gauche écologistes offrent souvent des solutions plus ambitieuses à ces sujets, ce qui attire la population.
Nous rappelons que nous ne sommes pas là pour orienter votre opinion, mais pour vous informer. Et sur ça, place à l'interview de Souleymane.
Merci. Aujourd'hui, je reçois Ryan, un sportif de très haut niveau. Salut Ryan.
Bonjour.
Quel sport pratiques-tu ?
Moi, je fais du foot à Nanterre en Régional 1.
Pourquoi tu fais ces sports ?
Je fais ce sport depuis 8 ans maintenant, car c'est mon tonton qui me l'a instruit depuis petit.
D'accord. De quoi tu veux nous parler aujourd'hui ?
Aujourd'hui, je voudrais parler de la différence à pratiquer du sport en ville et à la campagne. En ville, il y a des infrastructures variées. Les villes disposent généralement d'un plus grand nombre d'installations sportives. L'accès au transport est un avantage en ville et les compétitions se passent généralement dans les villes. Au contraire, en campagne, ce sont des infrastructures limitées, les installations sportives sont moins nombreuses, les moyens de transport peuvent être très restreints, donc ça rend l'accès difficile à des lieux de pratique. Moins de diversité d'activités, les sports peuvent être limités par rapport aux zones urbaines. Il y a aussi moins de clubs qui peuvent réduire les opportunités de se joindre à des groupes. Et la distance entre le domicile et là où il pratique peut entraîner un manque de motivation ou même un sentiment d'isolement pour certains sportifs.
Merci Ryan.
Merci à toi.
Merci pour cette interview poignante sur le sujet qui est malheureusement vécu par trop de personnes. Dans les villes, nous entendons beaucoup dire que la ville est plus confortable que la campagne, car on y a tout à proximité.
Bonjour madame.
Bonjour.
Qu'est-ce que la ville vous inspire ?
Moi j'aime beaucoup la ville, j'aime beaucoup Paris. Qu'est-ce que ça m'inspire ? Je ne sais pas. J'aime beaucoup qu'il y a plein de monde autour de moi. Je suis très angoissée quand il n'y a personne autour de moi. Je n'aime pas la campagne, donc j'aime beaucoup la ville. J'ai toujours voulu habiter en ville.
C'est tout ?
Ouais.
Merci beaucoup.
Mais ces besoins ne sont-ils pas dictés par notre environnement ? Pour cela, nous allons interviewer une sociologue, Jaber Assia. Bonjour Assia.
Bonjour, merci de m'avoir invitée.
En moyenne, en combien de temps les personnes vivant dans une ville ou une campagne se rendent-ils au travail ?
Alors, l'INSEE indique que la distance médiane entre le domicile et le travail pour les actifs ruraux s'établit à 13 km. Et d'après le ministère du Travail, le temps de déplacement pour aller au travail est de 68 minutes. Nous observons donc bien que la durée est bien plus longue que pour la campagne.
Y a-t-il une grande diversité des activités physiques également en campagne ?
D'après l'INSEE, 84% des habitants vivant en ville pratiquent du sport, tandis que 81% de ceux qui habitent en campagne pratiquent des sports. Mais ces sports sont différents entre les zones urbaines et rurales. En effet, en campagne, on trouvera plus des activités sportives de plein air, notamment la pêche et la chasse.
Malgré la pollution, pourquoi les personnes restent-elles dans les villes ?
Elles restent dans les villes, car les villes offrent de meilleures perspectives d'emploi. De plus, les infrastructures comme les hôpitaux ou encore les transports en commun se développent dans le milieu urbain. Malgré cet énorme inconvénient, ces avantages font que beaucoup veulent y rester.
Merci d'avoir répondu aux questions, Assia. Merci à notre autre invité Ryan et Souleymane de l'avoir interviewé, à Lisette de rendre notre émission si vivante et à notre chroniqueur Charles.
Et merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Tout sur la ville. Bought a new car now.